J'ai bu une gorgée de vie. Savez-vous ce que j'ai payé ? Exactement une existence. Le prix, ont-ils dit, du marché.
Mais qu'est-ce que t'as, Mélissa, à réciter des poèmes à tout va ?
Tu connais pas, c'est Emily Dickinson ?
Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez-vous.
Tout le monde s'adresse au ministre en disant « Bonjour, monsieur le ministre » et à moi en disant tout simplement « Bonjour ».
Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire.
Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
Ça n'est quand même qu'une nana.
Salut à tous, bienvenue dans notre émission de radio Banana. Aujourd'hui, nous allons parler de Emily Dickinson. Alors personnellement, son nom m'était connu, mais je ne savais pas qui elle était jusqu'à ce que j'aille voir le week-end dernier une pièce de théâtre sur elle. C'était une pièce qui reprenait ses poèmes, puisqu'elle est poète, et qui mettait en scène sa vie de façon contemporaine.
Elle est née en 1830 dans le Massachusetts, et c'est dans une période qui précède la guerre de sécession. Donc à l'époque, il y avait de forts courants idéologiques et politiques qui s'affrontaient dans la haute et moyenne bourgeoisie américaine, et elle est d'une famille de tradition protestante et puritaine. D'ailleurs, sa famille était l'une des premières à promouvoir l'ouverture d'un centre éducatif pour filles, qui était quand même assez rare à l'époque. Enfin, les femmes étaient rarement instruites. Donc, elle est dans une famille qui, sans être très riche, est socialement en vue dans la Nouvelle-Angleterre. Emily suit l'école primaire. Son éducation est ambitieusement classique pour une enfant de l'époque victorienne. En effet, son père tient à ce que ses enfants soient bien éduqués et suit leur progrès même lorsqu'il est loin pour son travail. Emily passe plusieurs années à l'Amherst Academy et suit les cours d'anglais, littérature classique, latin, botanique, géologie, et histoire et philosophie mentale et aussi arithmétique. Après son enseignement, elle va étudier dans un séminaire pour jeunes, qui est elle va recevoir une formation académique, mais le but de ce séminaire était surtout de former des missionnaires religieux, mais elle décide finalement de ne pas s'y consacrer. De retour chez elle, Emily Dickinson se consacre aux activités domestiques. Elle se met à faire la cuisine pour sa famille et participe aux manifestations locales et aux activités de la ville universitaire naissante. Elle rencontre Benjamin Franklin Newton, et qui eut une influence formatrice. Il y a eu beaucoup d'hommes plus âgés. Il y a une longue série d'hommes plus âgés dont Emily va s'inspirer. Et celui-ci, donc Newton, va vraiment être un peu comme son tuteur. Mmh. Et il va vraiment la tenir en haute estime et il va reconnaître en elle une poétesse, qui est assez rare quand même à l'époque pour le sexisme.
Et en parlant de ses poèmes, elle était très dévouée à ses activités privées et elle envoyait des centaines de poèmes à des amis et à des correspondants, tout en gardant apparemment le plus grand nombre pour elle durant toute sa vie. Et elle travaillait habituellement dans des formes de vers évoquant des hymnes et des ballades avec des lignes de 3 ou 4 accents. Du coup, pour ceux qui s'y connaissent en poèmes, ça peut vous dire quelque chose. Et ces rimes inhabituelles ont été considérées à la fois comme expérimentales et influencées par l'hymniste, je pense que c'est un mouvement, du XVIIIe siècle, d'Isaac Watts. Elle ignorait librement les règles habituelles de versification et même de grammaire. Et dans le contenu intellectuel de son travail, elle se montrait également exceptionnellement audacieuse et originale. Ses vers se distinguent par sa compression épigrammatique, sa voix personnelle obsédante, son éclat énigmatique et son manque de polissage.
Pour comprendre un peu les thèmes récurrents qui sont la mort, l'amour, etc. de ses poèmes, il faut revenir à ce qu'elle a vécu plus jeune. En fait, elle a été perturbée dès le plus jeune âge par la mort, car son amie Sophia Holland est décédée en 1844 par suite d'une maladie nommée typhus. Et aussi, elle est de nature très anxieuse, stressée, et elle cesse de penser à des choses sombres, obscures, telles que la mort de sa mère. D'ailleurs, il y a un poème entièrement dédié à cette angoisse. Et donc, c'est pour ça que les thèmes récurrents de tous ces poèmes sont vraiment la mort. C'est sombre, obscur. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Dickinson.
Il
mais...
y a aussi beaucoup d'amour aussi, non enfin,
Oui, il y a beaucoup d'amour parce qu'en fait, elle est tombée amoureuse de la femme de son frère, qui s'appelle Suzanne. Et elle éprouve vraiment des sentiments amoureux pour elle. Je peux vous lire un extrait d'une correspondance qu'elle a eue avec cette Suzanne qu'elle appelle Suzy. « Je ne peux pas croire, chère Suzy, que j'ai été presque sans toi toute une année. Tantôt le temps semble court et ma mémoire de vous réchauffe comme si vous étiez partie hier. Et tantôt, si les années et les années ont parcouru leur chemin silencieux, le temps semble moins long. Et maintenant, dès que je vous aurai, je vous tiendrai dans mes bras. Tu vas pardonner les larmes, Suzy. » Elles sont si heureuses qu'il n'est pas dans mon cœur de les réprimander et de les renvoyer chez elles.
Ouais, j'ai vu même qu'elle y avait envoyé plus de 300 lettres durant leur correspondance, ce qui est quand même immense. Et d'ailleurs, elle est vraiment inspirée par diverses références. Bah déjà, elle connaît bien la Bible, puisque forcément, elle a eu une éducation quand même assez chrétienne, catholique. Enfin, catholique. Et elle va aussi avoir une culture dans la littérature populaire contemporaine. Par exemple, elle est très influencée par les Lettres de New York de Lydia Maria Child. Et aussi, elle est très inspirée de Jane Eyre, de Charlotte Bronte, et aussi par William Shakespeare, qui a une forte influence sur sa vie. Et elle se réfère beaucoup à ses pièces de théâtre.
Oui, elle était connue aussi pour son excentricité et son ingéniosité. Par exemple, petite anecdote, elle a passé les 15 dernières années de sa vie enfermée, d'abord chez elle et ensuite exclusivement dans sa chambre. En outre, elle prend également l'habitude de ne s'habiller qu'en blanc. Elle ne sortait alors que dans son jardin adoré. Le reste du temps, elle le passait dans sa maison volontairement.
Comme dit Mélissa, elle ne souhaitait pas se soumettre aux normes de la société, donc elle était beaucoup solitaire, isolée du monde social. Elle préférait se réfugier dans l'écriture et entretenir des relations par correspondance plutôt que d'entretenir des relations dans la vie réelle, en fait. C'était son échappatoire, mais c'était surtout son caractère, en fait. Elle était comme ça.
Elle était aussi mariée, mais il me semble que c'était pas un mariage d'amour, du coup.
Oui, justement, et il n'a pas duré, du coup. Enfin, elle l'aimait en cachette, justement, Suzanne, pendant tout ce temps, et du coup, leur relation était un peu secrète. Elle se voyait, mais c'était... On l'a su que après, quand on a lu ses correspondances, en fait.
Il y a une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps, quelques années peut-être, où ce personnage hors norme et leur relation, du coup, sa relation secrète avec Suzanne a été.
C'est la série Dickinson, série qui est disponible sur Apple TV et qui est sortie en 2020. Et oui, c'est ça, ça développe un peu plus sur sa relation. Avec Suzanne, mais aussi avec sa relation, parce qu'elle était très proche de sa sœur Lavinia. Et donc, c'est développé sur sa vie de famille, sa vie de poétesse. On a beaucoup d'extraits de poèmes aussi dans la série, donc c'est plutôt cool. Il y a aussi un film britannico-belge, Emily Dickinson, A Quiet Passion, sorti en 2016, qui parle de la vie d'Emily en tant que poétesse et sa rébellion envers les conventions religieuses. Donc en fait, dans toutes les reprises qu'on a de Emily Dickinson, on peut voir qu'elle est tout le temps contre la religion, rebelle. C'est le cliché de la fille qui s'en fiche un peu de tout et tout. Donc,
Et d'ailleurs, elle était très, pudique. Parce que je sais qu'elle ne voulait absolument pas partager ses écrits à ses proches. Mmh. Elle avait même demandé à sa sœur de brûler une partie de ses correspondances à sa mort. Et d'ailleurs, c'est aussi grâce à sa sœur Vinnie qui celle-ci va publier en fait sa poésie. Et d'ailleurs, elle va être publiée. Très peu de ses œuvres vont être publiées par rapport à la quantité qu'il y avait. Mais quand elles ont été publiées, elles ont été bien évidemment adaptées aux règles et codes de l'époque, c'est-à-dire que c'était modifié, parce que comme tu disais, Mélissa, au début, ces poèmes étaient quand même pas n'étaient pas dans la normalité, c'est-à-dire qu'ils ne respectaient pas les c'est ça. Et même aujourd'hui, quand on les lit, on trouve, moi personnellement, après c'est des traductions aussi françaises, mais c'est assez étonnant, la manière dont c'est écrit, on a du mal, c'est pas comme un poème très romantique, très fluide à lire.
Enfin, à l'époque, c'était mal vu parce que ça respectait pas la forme habituelle des autres poèmes.
Et je pense que c'était ça à l'époque, sa force, du coup son style assez unique, et elle abordait quand même des thèmes universels que peut-être à l'époque on n'abordait pas trop la mort, comme c'était très religieux, centré sur le christianisme, et il y avait une peur autour de la mort.
Et là, elle en parle. Elle en parle aussi comme si c'était une angoisse quand même, parce que ça l'inquiète, elle a peur. Et en plus, d'ailleurs, elle était tombée malade en 1945-46, et elle ne pouvait plus suivre ses cours, etc. Et là encore, elle parlait beaucoup de la mort, elle avait peur de mourir. Et vraiment, c'est le thème le plus récurrent de ses œuvres.
Oui, ça l'a suivi du début jusqu'à la fin. Quoi.
D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va les beaucoup comparer aujourd'hui comme finalement l'équivalent féminin de Edgar Allan Poe. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'Edgar Allan Poe, il est quand même assez sombre. Et donc finalement, c'était...
Peut-être, il s'est inspiré d'elle, justement.
Ce qui n'est pas commun, finalement, qu'une femme. On l'imagine une femme qui écrit des poèmes amoureux, romantiques.
Ouais, sur le foyer,
alors qu'elle, non.
Et il y a beaucoup de femmes qui l'ont repris... ces dernières années. Donc il y a le roman de Dominique Fortier, Les Ombres Blanches, qui est une histoire sensuelle. L'auteur décrit ça comme un refuge face à un monde chaotique et tourmenté. Et elle a inclus des poèmes de Dickinson dans ce roman. Et il y a aussi Louis Doyon qui a repris ses poèmes en chanson.
Et en fait, elle montrait aussi que la poésie est faite pour tous et pour tous. Parce qu'on n'est pas obligé tout le temps d'écrire des poèmes joyeux. On peut faire aussi des recueils de poèmes sur la dépression, la mélancolie, la mort. Tout comme Baudelaire l'a fait après des siècles plus
avec
tard.
Avec le spleen.
Oui, voilà, avec le spleen.
Pas des siècles plus tard, mais...
Ah, oui. Voilà, j'hyperbole un peu le truc.
Le contexte historique n'est pas présent, ce n'est pas grave, Mélissa.
Ouais, c'était un peu la sad girl de l'époque, comme Lana Del Rey aujourd'hui, avec ses musiques, quoi.
En tout cas, merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast.
Au revoir.
Bye.